Bienvenue sur le podcast de Moodstep où nous nous intéressons à toutes ces formes d'intelligence que nous devrions utiliser au travail de notre intelligence émotionnelle, interpersonnelle, intrapersonnelle, jusqu'à l'intelligence collective. Aujourd'hui, nous recevons Solène Thomas, qui est chasseuse de tête et qui a fondé Éclore. Nous allons nous intéresser à l'épanouissement professionnel ou à l'épanouissement personnel et au travail. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur. Mon obsession, les talents. Et donc je prends des groupes d'environ, en moyenne, 150 personnes pendant 2 heures. Mon but, que vous identifiez vos talents, que vous sachiez identifier les talents des autres et que nous voyons quels sont les talents du groupe. Parce que les talents, c'est la base de notre réussite personnelle, mais aussi collective. Je vous propose de retrouver tout de suite Solène pour ce podcast. Bonjour Solène.
Bonjour Johanna.
Bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler... Alors, il faut dire que tu es un endroit stratégique quand on parle du monde de travail. Tu travailles dans un conseil de dans un cabinet de recrutement, c'est ça, de chasseur de tête?
Tout à fait.
Donc on va parler du travail et de l'épanouissement personnel au vu de non seulement ton travail, mais aussi tu as créé une association Éclore. C'est une forme associative. Hein.
Tout à fait, oui, oui.
Avant de commencer et de parler de travail et d'épanouissement personnel, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours? Comment t'en es arrivée là et ce que tu fais aujourd'hui?
Avec grand plaisir. Moi, je fais du recrutement de cadres dirigeants et de managers à haut potentiel dans un cabinet de chasse. J'exerce ce métier depuis plus de 12 ans maintenant, dans un cabinet parisien. Il y a quelques années, j'ai découvert la méditation qui a vraiment transformé mon rapport à l'autre. Et j'ai commencé à exercer un peu différemment mon métier. Et j'ai eu envie d'amplifier ce que je faisais en one-to-one dans mon cabinet en créant une association qui est un mouvement autour de l'épanouissement de soi au travail. Voilà, j'ai créé Éclore il y a 3 ans et on anime des communautés, on crée des événements assez exclusifs, toujours autour de cette idée qu'il est possible de réconcilier travail et épanouissement personnel.
Comment t'en es arrivé au recrutement? Qu'est-ce qui t'a amené là?
Le recrutement, au départ, c'est vraiment un hasard, un jeu de rencontre. Je ne pense pas qu'il y ait des chasseurs de tête qui aient pour vocation d'exercer ce métier. J'ai fait une école de commerce et une fac de philo à côté. Je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie professionnelle quand j'ai eu mes diplômes. Je savais que je ne souhaitais pas poursuivre dans le monde académique avec, pourquoi pas, un jour un doctorat en philosophie, par exemple. Je trouvais que ça manquait de concret, de pragmatisme. Et en même temps, je ne trouvais pas tellement ma place dans le monde de l'entreprise. J'avais fait différents stages. Je ne me reconnaissais pas trop dans le monde du travail tel qu'il s'offrait à moi après mes études. Et en fait, j'ai fait des belles rencontres qui m'ont amenée à rejoindre un cabinet de recrutement et puis un second dans lequel je suis toujours. Donc, c'est vraiment par hasard.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer Éclore? Quel constat t'as fait du monde du travail? Comment tu le décrirais et pourquoi Éclore, quoi?
Alors d'abord, c'était un besoin personnel de m'exprimer. J'avais le sentiment que dans mon travail, je ne pouvais pas exprimer tous mes talents. J'ai toujours aimé ce que je faisais, mais je ressentais un manque et une envie de me réaliser quelque part. Très souvent, lorsque je rencontrais des candidats ou des clients, j'exprimais des choses assez singulières, une créativité, une manière de m'exprimer. Et il arrivait qu'on me reproche ma fraîcheur, qu'on me reproche de vouloir être un peu différente, qu'on me reproche ma sensibilité aussi. Et un jour, je me suis dit que j'avais envie vraiment de l'exprimer, que j'avais pas de raison de le garder en moi, tout ça. Donc ça, c'est une première raison, c'est exprimer pleinement tous mes talents en allant créer des communautés, en imaginant des ateliers, voilà. L'autre raison, c'est que je ressentais que le monde du travail dysfonctionnait et dysfonctionne toujours. Et j'avais envie de faire ma part du colibri. J'avais envie d'être active et actrice d'un monde du travail en transformation. Au quotidien, j'observe encore que les gens ne sont pas toujours respectés, que beaucoup de talents sont gâchés. qu'il y a une forme de tyrannie aussi dans les relations humaines au travail. Et au lieu de simplement l'observer de ma fenêtre sans rien faire, je me suis dit un jour qu'il fallait vraiment que j'agisse. Voilà. Donc, il y a un sujet perso de me réaliser, puis un sujet aussi de participer à un changement de société.
Mais toi, tu as regardé ce monde du travail à travers cette lunette du recrutement.
Oui.
Donc, quand tu parles de dysfonctionnement, tu parles du dysfonctionnement notamment dans la sélection des candidats et des postes à pourvoir?
Oui, à plusieurs niveaux, j'observe des dysfonctionnements. Dans ton cabinet, une pression excessive sur le chiffre d'affaires, comme dans la plupart des cabinets de recrutement, où là, ça me questionne un petit peu. Dans la manière dont les candidats sont sélectionnés par mes pairs et par mes clients, j'observe des choses qui ne sont pas toujours très justes.
Comme quoi ? Tu pourrais être plus spécifique ?
Ouais, on a du mal à prendre en compte la vraie richesse humaine, c'est-à-dire que des candidats qui ne correspondent pas à un cahier des charges un peu aseptisé, tel type de formation, tel âge, une expérience très très précise, on ne va pas aller voir au-delà des apparences. Et ça me gêne parce que très souvent, je rencontre des candidats qui ont certes 55 ans, mais qui ont beaucoup de choses encore à offrir aux entreprises et qui ne seront pas rencontrés par des clients. Ou des candidats qui n'ont pas le bac plus 5 qui va bien, mais tout à fait les compétences sur le terrain. Ils ne seront pas non plus considérés ou leur dossier ne sera pas instruit. Donc ça me dérange beaucoup. Je trouve qu'on gâche les talents.
À ton avis, pourquoi on en est là? Pourquoi on a tous ces critères qui ne sont pas forcément les bons, selon toi?
Je vois trois raisons principalement. D'abord, de l'illusion. Vous avez grandi endoctriné par le mythe du diplôme, ben vous reproduisez en fait. Vous avez vous-même fait des études difficiles, vous êtes à un poste de responsabilité. Vous allez vous dire que si le candidat n'a pas fait comme vous, prépa et grande école, il ne mérite pas d'être dans votre équipe. Donc il y a de l'illusion, il y a des croyances où on corrèle l'excellence d'un candidat à son diplôme. Donc, ça, c'est des choses à déconstruire. Ensuite, il y a la peur de celui qui diffère de soi. Je vais parler là de stéréotypes liés au handicap, par exemple. Quand vous-même, vous n'avez pas été confronté au handicap et que vous voyez un candidat qui a un handicap, vous allez avoir peur de le recruter dans votre équipe parce que vous ne connaissez pas. Et puis, il y a aussi l'ignorance. L'ignorance de ce qu'est véritablement le talent, l'ignorance de ce que signifie véritablement le leadership. Pour prendre un exemple concret sur le leadership, on croit que parce qu'on fait preuve d'autorité et d'un tempérament un peu frontal, on va être un meilleur leader que quelqu'un qui va arrondir les angles ou être plutôt doux. Et c'est se méprendre sur ce qu'est le leadership. Le leadership, ce n'est pas avoir un caractère bien trempé et être dans la frontalité. C'est savoir s'adapter à des situations diverses, avoir une vraie vision et amener des équipes. Donc, il y a beaucoup de choses à déconstruire et ça me semble être lié à la fois à des croyances, à des peurs et à de l'ignorance.
Je vais prendre le problème, si c'est un problème, par la fin. Si on recrutait tel que tu penses qu'il serait plus juste que l'on recrute, et on va y venir ensuite, est-ce que l'entreprise est capable d'accueillir des profils atypiques ou qui sortent de ce carcan ?
Non, aujourd'hui, très difficilement. C'est aussi sur ça que j'agis avec Éclore, en créant des événements qui bousculent les codes et qui permettent de repenser le rapport à l'autre et au travail. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, lorsque des décideurs ou des recruteurs prennent des risques avec certains candidats un peu atypiques, ces candidats s'épanouissent rarement dans l'entreprise. Aujourd'hui, je parle plutôt d'entreprises de taille importante, des ETI ou des groupes du CAC 40. Parce que les mentalités ne sont pas encore prêtes à accepter la singularité des personnes, à reconnaître les compétences derrière des critères stéréotypés de genre, de diplôme, d'expérience. Donc aujourd'hui, moi, j'observe qu'en France, les entreprises ne sont pas prêtes à accueillir des gens qui ont des vraies singularités, qui travaillent en authenticité, qui ont une quête d'éthique aussi. Il y a beaucoup de problématiques d'éthique en entreprise. Et je crois qu'il faut vraiment repenser notre culture globale, notre culture du travail en France, pour être prêt à réconcilier de la performance et de l'authenticité, de l'exigence et de la bienveillance. Voilà, il y a des mentalités à transformer.
Tu as parlé de déconstruire, de repenser la culture. Par où on commence? Comment on va s'y prendre? Peut-être, est-ce que tu as identifié les priorités ou un cheminement possible?
Qu'il est bon d'agir sur plusieurs leviers en parallèle. À problème complexe, réponse toujours complexe, évidemment. On a tous une part de responsabilité individuellement. Le système dans lequel nous évoluons est aussi le reflet des schémas de pensée que nous avons tous. Et donc, quand on veut changer le monde, il faut commencer par changer son monde. Et ça passe par un changement de notre propre rapport au travail. Et quand je dis ça, j'inclus tout le monde, moi la première. C'est-à-dire comment au quotidien, je me transforme, je transforme mes représentations, j'accepte d'aller me confronter à des gens qui sont très différents de moi. Voilà, ça c'est un premier chantier qui est peut-être le plus important, c'est se changer soi et inviter tout un chacun à se développer personnellement, à se confronter à celui qui diffère de lui, à aller sur un chemin personnel et assez intérieur. Ensuite, on ne peut pas faire l'impasse aussi d'un chantier plus global sur les conditions managériales et organisationnelles des entreprises. C'est-à-dire qu'en se transformant seul, on fait un bout du chemin, mais il n'est pas suffisant. Donc, on doit aussi inviter les organisations et les systèmes à se transformer. Et ça passe par de la formation. Les managers doivent mieux se former. Ça passe par repenser le système de l'éducation pour qu'il soit plus aligné aux enjeux du monde de l'entreprise de demain. Ça passe aussi par un changement des gouvernances. On doit repenser les modalités du pouvoir. On doit avoir une meilleure représentation de la diversité dans les instances dirigeantes. Donc ça, c'est des choix d'entreprise. Ensuite, me semble-t-il qu'il y a un autre niveau d'action qui est plus politique, lié à des fiscalités, à des lois qui pourraient passer pour déverrouiller des systèmes, proposer d'autres dispositifs de formation, d'apprentissage, faciliter des passerelles entre des secteurs, permettre à tout un chacun de changer de métier en milieu de vie. Voilà, donc il y a aussi des niveaux plus globaux, politiques, fiscales, voilà. Je vois ces trois leviers.
Ouais, tu es rentrée dans toute cette réflexion par la lorgnette du recrutement, mais en fin de compte, tu as une vision très globale du monde du travail en général.
Oui, en fait, mon souhait d'agir pour réconcilier travail et épanouissement a impliqué d'abord beaucoup de réflexions personnelles, mais énormément de rencontres. Donc, je suis allée à la rencontre dans ma petite sphère professionnelle des candidats et des clients de manière assez approfondie. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait mon travail de recruteuse ou d'apporteuse d'affaires dans mon métier, je m'autorise à aller un cran plus loin pour connaître vraiment l'autre, comprendre ses problématiques. Donc, mon travail m'a permis d'aller examiner de près les dysfonctionnements. Et puis, par mon activité associative avec Éclore, j'ai eu une vraie recherche sur le positionnement d'Éclore. Où est-ce que je devais positionner Éclore pour contribuer à cette réconciliation du travail et de l'épanouissement? Et au départ, Éclore, il y a 3 ans, c'était plutôt du coaching individuel. J'étais un peu, à ce moment-là, dans le culte de l'empowerment. Beaucoup se passent par là, hein, lorsqu'il y a un changement de champ de conscience. On se libère de pas mal de croyances et on prend conscience qu'individuellement, on peut faire beaucoup. Et on tombe souvent dans cette croyance que l'individu est en fait tout puissant. Hein. Il y a une forme d'ego spirituel qui se développe, dans lequel j'ai été moi aussi. Hein, je me suis dit, mais on peut faire fi de notre environnement et pleinement impacter, transformer les conditions de notre réalité, ou même il suffit de changer notre regard. Hein. On est complètement libre, il suffit de changer notre regard. Et j'ai été dans cette croyance-là pendant quelques années, je te l'avoue, Johanna. Donc j'ai proposé des ateliers avec d'autres coachs, on s'appelait les éclaireurs. Et je me disais, mais il suffit de changer son regard. Et puis un jour, j'ai fait une rencontre qui m'a permis de prendre conscience de mes illusions. Et en fait, on en a toujours, on en dégomme et il y en a d'autres qui reviennent en surface. Et cette rencontre a été déterminante dans ma compréhension de la systémique des entreprises et dans le déploiement du projet Éclore qui a survenu ensuite. J'ai rencontré un homme qui s'appelle Riyad Salem, que tu connais peut-être.
Oui, je connais.
Voilà, qui est un champion paralympique et qui est par ailleurs entrepreneur et qui porte de nombreux projets sociétaux. Et un jour, alors que j'étais dans cette croyance-là, qu'on est tout puissant, qu'il suffit de changer de son regard sur l'autre, Riyad me dit « Oui, mais Solène, tu sais, il est important de changer, de dégommer nos représentations, effectivement, mais… » l'esprit n'est pas tout puissant. Moi, je peux prier tous les jours pour retrouver des jambes et un bras qui me manque. Ça ne me les fera pas pousser, tu sais. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. C'est tellement évident, c'est vrai. Il y a aussi une réalité matérielle, économique, sociale, politique, des conditions très réelles. Il ne suffit pas de changer notre état d'esprit pour que les choses changent. Il est important de changer notre état d'esprit, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi agir sur des conditions réelles. Hein, et c'est presque du Marx, hein, c'est presque la philosophie de Marx, mais on est conditionné par tout un tas de structures et d'hyperstructures. Et donc, il est aussi important d'agir sur ces niveaux-là. Et le chemin que j'ai fait depuis la rencontre avec Riyad, qui date de 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, a été très salutaire. Et m'a permis réellement de comprendre que nous devons agir au niveau subtil, intérieur, repenser notre rapport au travail intérieur, hein, revoir nos pratiques personnelles, mais aussi agir sur la manière dont les entreprises fonctionnent, un niveau plus macro. Et qu'on ne peut pas agir que sur un levier, qu'il faut agir sur les deux leviers à la fois.
Ce qui m'étonne quand je t'écoute, c'est de me dire, c'est presque un chantier tellement énorme. Comment tu abordes ton ambition qui semble immense ?
Alors d'abord, je l'aborde toujours de ma petite lucarne. C'est-à-dire que j'ai compris que j'étais d'abord une recruteuse qui est passionnée par son métier, avant d'être une engagée... engagée, pour ne pas dire enragée, militante, avant d'être une actrice du changement, je suis une recruteuse. Et je me suis vraiment réappropriée mon métier, alors que j'étais souvent en confrontation, en réaction avec des pratiques dans mon métier auxquelles je n'adhérais pas. Aujourd'hui, je me suis vraiment réappropriée mon métier. Je n'oublie pas que d'abord, ma compréhension du monde du travail se fait à travers mon métier. Et donc, j'ai décidé de bousculer un petit peu les modalités au travail à travers mon métier. Donc d'abord, comment au quotidien, dans mon métier de recrutement, j'essaye au mieux de mettre en pratique ma vision du monde du travail de demain.
Alors justement, voilà. Je t'interromps un peu ici. Est-ce que tu pourrais me dire à quoi ressemblerait ce monde du recrutement si on rejoignait ta vision ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Comment on s'y prendrait ?
D'accord. Alors, je dirais d'abord qu'en tant que recruteuse du monde du travail de demain, je prends soin au quotidien d'être pleinement à l'écoute des candidats que je rencontre. Avant de les recruter, je médite, ou de les rencontrer plus précisément, je médite quelques minutes pour me mettre en disponibilité, pour être dans une écoute attentive. Et ça change tout. Lorsqu'on a l'esprit encombré, on ne peut pas pleinement recevoir l'autre, l'écouter en vérité. Donc, c'est se mettre dans un état de disponibilité pour écouter le candidat, écouter ce qu'il dit, mais plus encore écouter qui il est. Et faire abstraction, un court instant, des données purement pratiques de CV. Et lorsqu'on arrive à s'ouvrir à qui il est, son parcours, son CV est vraiment mis en perspective. Et alors, on se retrouve à dire au candidat, mais en fait, vous êtes hyper créatif. Mais je ne comprends pas, sur votre CV, vous êtes un contrôleur de gestion. Mais en fait, je vois en face quelqu'un de très créatif. Et là, ça permet d'aller explorer d'autres champs de potentiel du candidat et je pense que c'est très salutaire dans le recrutement. Et
en fait, il faudrait aussi changer la façon dont on fait les annonces pour qu'on ait l'occasion de rencontrer ces profils atypiques qui correspondraient au job si on ne l'avait
Bien
pas
sûr.
mis dans des petites cases.
En fait, on doit tous changer ensemble. Le candidat doit être en capacité de s'exprimer en vérité, ce qui est rarement le cas pour ne pas dire jamais. Le recruteur doit changer ses lunettes pour aller chercher des choses au-delà des simples compétences. Et le recruteur final, donc les managers, les dirigeants, les DRH, doivent aussi changer. Donc en fait, c'est un travail à faire tous ensemble, c'est un travail collectif. Hein. Et il serait bon que demain, candidats, recruteurs et managers aient différents niveaux de lecture. Oui, on doit s'intéresser aux compétences, mais ce n'est pas suffisant. On doit aussi s'intéresser au talent. Le talent ne s'acquiert pas. Ce n'est pas à toi que je vais parler du talent, Johanna, mais le talent, c'est une aptitude naturelle qu'on fait avec joie et dans laquelle on a beaucoup de résultats. Et beaucoup de personnes aujourd'hui travaillent dans des métiers où ils ont des compétences, mais pas nécessairement leur talent. Qu'il est important d'aller aligner les compétences et les talents, d'aller là où on a du talent, là où on a de la joie à œuvrer. Et ensuite, le troisième niveau de lecture, c'est le niveau plutôt lié à l'état d'esprit. Un candidat peut avoir les bonnes compétences, les bons talents, mais un état d'esprit qui fait qu'il ne sera pas adapté à tel type d'entreprise. Pour moi, un bon recrutement, c'est un recrutement qui permet à l'entreprise de trouver les bonnes compétences, les bons talents au vu de la culture et le bon état d'esprit au vu de la dynamique globale de la structure.
Qu'est-ce que tu mets dans l'état d'esprit? Ça se rapproche des valeurs ou...
Oui, c'est le mindset, l'état d'esprit, c'est les croyances, c'est la manière de fonctionner, mais des choses assez subtiles. C'est des choses qui se décryptent au-delà du déclaratif.
T'as un exemple?
Oui, je vais te donner un exemple. Il y a un candidat qui peut dire « pour moi, l'éthique, c'est très important. » Moi, je veux des gens qui sont très, très alignés, etc. Et en fait, ils sont plus dans le dogmatisme moral que dans l'éthique. Ils ont besoin de travailler dans une activité qui, par exemple, ils vont avoir envie de travailler dans du commerce équitable, plus que dans des grands groupes de distribution un peu classiques où les fournisseurs sont un peu oppressés. Donc, pour eux, c'est très important d'aller dans une entreprise qui est plutôt dans une activité responsable. Mais pour autant, la personne ne va pas être très alignée, elle, éthiquement. Elle va quelquefois mal s'adresser à ses collaborateurs. Elle ne va pas toujours... Elle va subir ses émotions, faire preuve de colère, choses comme ça, sans canaliser sa colère. Donc, c'est une personne qui aura sa place dans un groupe qui n'est pas encore très mature en termes d'intelligence interpersonnelle, mais par contre, qui est dans une activité, l'économie sociale et solidaire. Donc, en fait, derrière un même mot, il y a des postures différentes, il y a des valeurs différentes, il y a une maturité personnelle qui peut varier. Et il est très subtil de saisir où est véritablement la personne derrière des beaux discours. Tu vois l'idée ?
Oui, je comprends tout à fait. Après, trouver l'état d'esprit de la structure qui accueille, de l'entreprise, c'est... Voilà, j'essaye de visualiser à quoi ça peut ressembler. Quoique, en travaillant sur les valeurs de l'entreprise, bon, j'arrive pas à complètement cerner ce qu'est l'état d'esprit, mais en travaillant sur les valeurs, on peut comprendre ce qui motive un groupe.
Oui, par intelligence empathique, j'ai envie de dire, on peut... assez facilement capter si le candidat peut être en correspondance avec une entreprise en termes d'état d'esprit.
Mais de quoi me parlez-vous, Solène ? D'empathie, d'intuition ?
Désolée, effectivement. C'est bien mon propos.
C'est vrai que tu as un langage très particulier pour quelqu'un qui est chasseur de tête. Quels sont les bénéfices à espérer de cette transformation ?
De cette transformation dans le recrutement, de cette transformation...
Dans le recrutement, on est dans le recrutement, parce que c'est vrai que je vois bien que tu as une vision très globale, mais voyons déjà avec le recrutement.
Ben, dans le monde auquel j'aspire être dans quelques années, les personnes travaillent dans des environnements qui leur correspondent véritablement, peuvent exprimer leur talent en vérité, peuvent avoir plusieurs casquettes, on n'est pas cantonné à un seul département, un seul métier, une seule mission. J'imagine des écosystèmes d'entreprises beaucoup plus ouverts, beaucoup plus créatifs. J'imagine des environnements de travail où on prend en compte l'émotion, la vie intérieure, les besoins plus personnels.
Est-ce que tu imagines des environnements de travail, par exemple, tu as des candidats qui sont... Allez, je vais utiliser des mots un peu forts, mais agressifs, parce qu'il y a des entreprises qui sont agressives, qui ont cet état d'esprit-là. Donc, est-ce qu'on matchera aussi les recrutés et les entreprises qui sont dans des états d'esprit qui ne correspondent pas au tien, j'ai envie de dire, ou à tes valeurs ?
J'aime bien ta question parce que ça questionne l'éthique. Un jour, j'ai travaillé pour une entreprise qui avait un mode de management qui correspond plutôt au monde d'hier, très direct, très frontal, avec beaucoup de pression exercée sur les collaborateurs. Et je me suis questionnée. Je me suis dit, mais est-ce qu'il est juste que je travaille pour ce client ? Et en fait, oui, à condition que je mette des candidats qui sont dans ce même état d'esprit et qui ont encore besoin de cet environnement. Si on met des candidats qui ont besoin d'un chef un peu autoritaire dans des entreprises libérées, le candidat ne va pas s'épanouir. Tu vois ? Donc l'éthique, c'est toujours un rapport entre deux entités. Hein. Je vais donner un autre exemple que j'aime bien. Je fais assez attention à ma consommation alimentaire. Je suis plutôt végétarienne, sans être dans le dogmatisme, plutôt végétarienne. Et un jour, je me disais, tiens, est-ce que c'est... Je demande à un SDF ce qu'il veut manger et il me dit, j'aimerais bien un hamburger chez McDonald's. Et sur le moment, je me dis, est-ce qu'il est juste d'acheter... moi, je ne vais pas nécessairement dans des fast-food et je n'achète pas de hamburger avec des steaks. Et donc, je me dis, est-ce qu'il est juste que je lui achète cet hamburger ? Bah oui, en fait, c'est son besoin à lui, là, maintenant. Et si je veux... voilà, il a besoin de manger et son besoin est celui-ci, bah, il est juste que j'y réponde. Tu vois ? Et peut-être que si je lui achète un plat anti, ça ne correspond pas à son besoin. Donc, je n'ai pas à lui imposer, moi, ce qui me ferait plaisir, tu vois, à moi. Je dois m'adapter à lui, là où il est.
Bon, on arrive largement au bout du temps. J'ai envie encore de questionner un peu cette ambition. Vas-tu rester longtemps recruteuse, en fait, ou chasseuse de tête Est-ce que il y a de la politique dans de ce que tu dis, il y a pas mal de voies que tu pourrais emprunter. J'ai presque l'impression que l'habit de chasseuse de tête est un peu trop petit pour toi.
Écoute, la chasse de tête, ça me permet vraiment de comprendre toujours plus finement le fonctionnement de l'entreprise et les trajectoires humaines dans les entreprises. Donc ça nourrit toutes mes réflexions sur le monde du travail. Après, mon engagement avec Éclore, mouvement culturel d'humanité au travail, me permet d'animer des communautés et de créer des événements exclusifs pour déconstruire nos représentations, nos mentalités et construire ensemble le monde du travail de demain. Et je trouve qu'il est très intéressant d'articuler les deux activités. Une activité de chasse de tête qui est assez étroite, il est vrai, où je recrute...
Non, mais elle est passionnante, mais au vu des questions que tu te poses, des questions globales, ça va devenir un peu ric-rac, quoi.
Oui, et en même temps, je trouve que c'est ça qui est très fort, c'est d'articuler les deux. Tu vois, c'est d'être capable de... On a organisé avec Éclore, il y a 2 semaines maintenant, le festival Éclore à l'Hôtel de Ville de Paris, autour des grands défis humains pour les managers. Et on a rassemblé 1000 personnes autour de 5 grands défis, handicap et performance, écologie et management, féminin pouvoir, jeune essence et neurodiversité et innovation. C'est vrai que c'était un beau projet, c'était une journée vraiment qui s'est remarquablement passée, bien passée. Et quand je suis revenue à mon travail, j'ai un collaborateur qui est venu me voir et qui m'a dit « Mais Solène, comment tu fais là pour revenir et te remettre dans tes dossiers de recrutement? Elle me dit, et avec beaucoup de joie en plus, tu le fais avec beaucoup d'engagement. Elle me dit, comment tu fais? Et je lui dis, mais parce que je trouve que les deux activités sont très, très complémentaires. Ça me permet de garder les pieds sur terre, de voir la réalité de l'entreprise, de comprendre des problématiques de recrutement stratégiques de grands groupes. Et puis demain, d'aller porter des messages sur des nouvelles systémiques d'entreprise. Et je trouve que cette articulation-là, micro, petite action de recrutement, même si c'est des recrutements stratégiques, et puis grand projet militant pour bousculer l'école, qui me permet de porter des messages qui sont qui viennent d'une vraie connaissance du monde de l'entreprise. C'est ça que je trouve passionnant. Souvent, des leaders de mouvements ou des hommes et femmes politiques sont déconnectés de la réalité et leurs mots ratent le réel.
Attention, parce qu'on pourra reprendre cet enregistrement si tu deviens ministre. Hein. et te le balanceront quand tu seras au journal de TF1. Fais attention.
Le sujet, là, c'est de rester capable de porter. Alors, des grands projets sont restés. C'est un mouvement associatif parmi des milliers d'autres et qui œuvre en complémentarité de plein de choses. Et c'est ça qui est chouette. Mais voilà, avoir de grandes ambitions sociétales et... garder en tête qu'on est on est tout petit et c'est parce qu'on sait qu'on est tout petit qu'on peut faire de grandes choses. Oui, je reste une petite chasseuse de tête à faire mes 10 à 20 recrutements par an, des recrutements stratégiques, mais mon rôle n'est pas non plus décisif hein, dans le paysage français. Et en même temps ça me donne l'énergie, la connaissance, l'envie de transformer les choses et porter des projets plus grands. Et c'est vraiment cette articulation. Aujourd'hui, j'ai vraiment pris conscience que c'est ce rapport des deux, de mon métier de chasseuse de tête et de mon rôle de militante, qui me donne ma puissance.
Donc, nous allons passer maintenant au questionnaire, qui est commun à toutes les interviews. La première question... Est-ce que tu as vécu un échec dans ta vie ou ce qui peut être vu comme un échec? Et surtout, ce qui m'intéresse dans cet échec entre guillemets, c'est comment ça t'a fait grandir? Qu'est-ce que tu as appris?
Au début de l'association Éclore, j'ai lancé une box Éclore de développement personnel en fédérant des coachs. Et on a développé cette box pendant 6 mois. Et en fait, je n'étais pas bien du tout dans le visage que prenait le projet à ce moment-là, parce que je me transformais en logisticienne d'atelier qui se reproduisait de manière un peu mécanique. Fallait faire X ateliers par mois. Et en fait, je perdais l'âme du projet et ce pourquoi j'avais envie de porter Éclore. Et donc, j'ai compris à ce moment-là que j'étais en train de mécaniser le projet et que je n'avais plus de joie à faire ça. Et donc, ça m'a permis de me poser les bonnes questions. Mais Solane, mais pourquoi tu as développé Éclore, en fait? C'est quoi ton but? Et j'ai compris que j'avais au fond de moi une âme d'artiste qui aimait créer. Et qu'à partir du moment où je créais quelque chose, je devais, même si ça réussissait, créer autre chose après. À partir du moment où je reproduisais la même chose, je perdais ma joie.
J'ai l'impression de m'entendre. C'est terrible. C'est comme un écho. Non. Deuxième question. Est-ce qu'il y a une technique ou un outil qui t'a particulièrement fait avancer au niveau personnel ou professionnel?
Oui, la méditation.
J'étais sûre.
Voilà, je ne peux pas répondre à notre outil parce que ça m'a vraiment transformée. Et c'est une pratique que j'utilise au quotidien. Qui m'a permis de m'ouvrir à la dimension intérieure ou spirituelle de l'être. Voilà. Et donc, au lieu de ne voir que la matière, que le monde visible, je vois toujours aussi ce qui est de l'ordre de l'esprit et de l'invisible. Et j'essaye à chaque instant d'être sur les différents plans de conscience en même temps, d'être pleinement présente dans la vie sociale, matérielle, physique, et en même temps, d'être connectée à ma dimension plus intérieure, plus spirituelle. Et la méditation, est vraiment la technique qui me permet de cultiver cette présence sur les différents plans de conscience.
Troisième question, quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager ?
L'humilité, la capacité à se remettre en cause et savoir qu'on n'est jamais parfait, toujours à parfaire.
Très bien. Est-ce qu'il y a un livre que tu pourrais nous conseiller à la lecture ?
J'ai un livre que je chéris, que j'ai dû offrir plus de 100 fois, Le prophète de Khalil Gibran.
Ah oui, ouais. Magnifique. Et on va finir avec une citation, peut-être une citation qui pourrait un peu définir ton action ou ce en quoi tu crois.
Sois l'élève de sa vie, de ta vie, tu seras maître de ta vie.
C'est de qui ?
C'est de moi. Et j'ai envie, l'inspiration du moment, c'est de dire « et donc tu pourras servir la vie ». Parce que la finalité n'est pas d'être maître de sa vie, mais c'est de devenir un maître serviteur.
Un maître serviteur.
Oui, ou un leader serviteur, plus exactement. Alors, si on devait la refaire, sois l'élève de la vie, tu seras maître de ta vie et tu pourras devenir un leader serviteur.
Ok. Merci beaucoup Solène. Où est-ce qu'on peut te contacter le plus facilement si des gens ont écouté cette interview et ont envie de parler?
Je suis très présente sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, un petit peu Twitter moins. Donc on peut me contacter sur les réseaux, on peut me contacter par email également, Solène, SOLE2N. @eclore.fr.
Ce qui donne d'ailleurs le site internet eclore.fr avec un K.
Tout à fait.
E-K-L-O-R-E ou il y a
oui,
un E hein.
Oui, tout à ouais. fait.
Ouais. C'est le site. Et pour finir, donc j'ai une baguette magique et je peux exaucer tes souhaits. C'est surtout dans cette question et cette conclusion, j'aimerais savoir, quels sont tes projets d'avenir, vers où tu vas, tes envies.
Je rêve que la France incarne vraiment cette belle devise que nous avons sur les frontons des mairies, liberté, égalité, fraternité. J'ai l'intime conviction que les problématiques au travail sont également fertiles et que, en repensant notre société du travail, nous pourrons mieux donner à vivre en chacun ces valeurs de liberté, d'égalité, fraternité. Et j'ai pour ambition très personnelle de participer à ce changement du monde du travail pour réconcilier performance et humanité. Avec Eclore, nous allons continuer à créer des événements assez exclusifs. Le prochain sera un prix pour célébrer les leaders humanistes qu'on va faire à la fin de l'année. Et nous allons aussi créer une académie pour observer les bonnes pratiques humanistes au travail et décrire des outils qui permettent de les favoriser.
Eh ben, un grand merci Solène, je te souhaite... T'as du pain sur la planche hein, quand même. Quand je t'écoute...
Mais je suis pas seule, ça va. Tu vas m'y aider aussi.
Qu'on va un peu dans la même direction. Merci beaucoup Solène, je te souhaite beaucoup beaucoup de réussite et puis vive la vie.
Merci Johanna.
C'est étonnant quand même parce que j'ai rencontré Solène il y a maintenant pas loin de 10 ans, ça fait un peu bizarre. Et donc j'ai vu avant la naissance d'Eclore, où était Solène, ce qu'elle essayait de faire, par quel chemin elle est passée. Donc je me dis que ce podcast, c'est aussi l'occasion de prendre des nouvelles, de voir comment chacun évolue. Et puis c'est un fabuleux outil de rencontre, au-delà d'être un outil de découverte, de méthode, de comment on fait. J'aime bien cette notion de rencontre. Donc j'espère, je ne sais pas vous pourquoi vous écoutez ce podcast, mais moi je sais que c'est un outil de rencontre et aussi de suivi. C'est assez pragmatique, mais voilà, de re-rencontres de gens qui évoluent tout le temps. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine avec Perrine. Nous allons parler de ludification, un de mes sujets favoris. À mercredi prochain. Très bonne semaine.